Bonjour à tous. Je vais commencer par prier. Dieu et Père, on veut te remercier de nous avoir conduits jusqu'ici ce matin, de nous avoir rempli tous tes bienfaits. Et voilà, c'est un privilège ce matin encore d'entendre ta parole. Et permets-nous de pouvoir bien la recevoir aussi. Permets-moi de l'exposer fidèlement. Amen. Alors, je vais mettre un chronomètre. Hop. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Vous connaissez cette phrase, elle est dans, entre autres en Marc 9, verset 4. Et vous savez que j'aime beaucoup l'évangile de Marc, pour beaucoup d'entre vous. Et c'est un évangile où il n'y a pas beaucoup de discours. C'est un évangile où il y a surtout de l'action, on voit Jésus en action. Et notamment, depuis le début de l'évangile de Marc, c'est le premier vrai discours développé à partir du chapitre 4, où Jésus va faire 4 paraboles. Alors, une parabole, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une comparaison. On va représenter quelque chose avec une autre pour essayer d'avoir un autre regard, pour mieux comprendre, pour mieux approfondir cette chose qui nous est présentée. Et on va juste regarder la première de ces paraboles, qui est aussi la plus longue. Donc, c'est Marc 4, à partir du verset 1. Donc, c'est une parabole que Jésus dit, elle est comme essentielle, c'est un peu le béaba. Quand il s'adresse aux disciples au verset 13, il dit « Mais vous ne la comprenez pas, comment comprendriez-vous toutes les paraboles qui parlent du royaume ?» Vraiment un texte essentiel et pourtant sous des formes très simples. Et mon souhait et ma prière ce matin, c'est que cette parabole nous pousse à être à l'écoute de la parole de Dieu pour avoir un engagement qui soit profond et exclusif et donc ensuite produire un témoignage fertile. Alors, je vais commencer à lire, en version second 21. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit sur le lac. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en parabole, et il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. » Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et se développait avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut seul avec eux, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit alors, « C'est à vous qu'il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole, afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leur péché ne soit pardonné. » Il leur dit encore, « Vous ne comprenez pas cette parabole ? Comment donc comprendrez-vous toutes les autres ? Le semeur sème la parole. Certains sont le long du chemin où la parole est semée. Dès qu'ils l'ont entendue, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. De même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils sont des hommes d'un moment. Et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et des passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres enfin reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueille et porte du fruit avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Jusqu'ici notre lecture. Alors peut-être que vous connaissez déjà cette parabole, j'imagine. Pas trop de regards étonnés, pas trop de regards réveillés non plus. Comment appelle-t-on en général cette parabole ? Le semeur, ouais. Peut-être d'autres noms aussi pour cette tête dans vos billes. Vous avez d'autres.
Quatre terrains.
Quatre terrains, ouais, tout à fait. Semeur, terrain. On pourrait aussi l'appeler la parabole de la semence. Alors, un semeur, une semence, des terrains. Ça fera mon plan. Mais je vous préviens, le plan ne sera pas forcément très uniforme. Alors, le point le plus court, le semeur. Qui est ce semeur? Alors, il faut reconnaître qu'on parle de lui avec pas beaucoup de détails. On a juste un verset, le verset 14. Le semeur sème la parole. Verset très simple, très, très riche. Et très certainement, le semeur, naturellement, on en vient à dire que c'est Jésus, parce que c'est précisément celui qui, à ce moment-là, prend la parole. Et il a dit au début de Marc qu'il était venu, sa priorité, c'était d'enseigner. Donc clairement, c'est au chapitre 1, verset 38. Cependant, il me semble que cette parabole peut s'appliquer à n'importe quel semeur qui sème la parole. Pardon. Parce que voilà, la définition est toute simple. Le semeur, c'est celui qui sème la parole. Et en fait, juste un peu plus loin, au verset 26 à 29, il y a une autre parabole où on voit cette fois-ci un semeur qui sème et ensuite qui ne s'inquiète plus de ce qui est arrivé à sa semence et qui ne sait pas trop ce qui va se passer. Et clairement, je ne crois pas que ça s'applique à Jésus, ça. J'y vois, dans cette seconde parabole, un disciple qui a semé la parole. Alors, voilà, on a notre semeur. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que semer la parole? Qu'est-ce que c'est que cette semence? Et voilà, on arrive à ma deuxième partie. Et Jésus éclaire, encore une fois, toujours le même verset, la semence, c'est la parole. Alors, le mot qu'il utilise pour parole, c'est le mot logos. Vous avez peut-être déjà entendu aussi, hein, qu'on a dans le mot logique, par exemple, ou tout dans... Donc, il veut dire discours dans un sens large, mais dans la Bible, c'est un mot qui est très particulier. Enfin, il est utilisé de différentes manières, mais notamment pour parler de la parole de Dieu. Ou ce qui revient même de la parole de Jésus. D'ailleurs, on pourrait dire que l'évangile, c'est... ça pourrait être la définition de l'évangile. L'évangile, c'est la parole de Jésus. Marc, dans son évangile, lui, l'a condensé l'enseignement de Jésus en une phrase, au chapitre 1, verset 15. Le moment est arrivé, donc c'est Jésus qui dit, le moment est arrivé, le royaume de Dieu est proche, changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle, ou l'évangile. Et donc c'est en sa parole qu'il invite tous les disciples à croire, et donc un disciple, quelque part, c'est quelqu'un qui fait confiance à Jésus, un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui fait confiance à Jésus. Une autre manière de le dire, c'est quelqu'un qui le croit sur parole. Donc on voit donc cette petite histoire, c'est une comparaison, ce semeur qui sème des graines, c'est une comparaison avec un disciple qui va semer la parole de Jésus, c'est-à-dire qui va la répandre, en parler autour de lui, à droite, à gauche, alors on a l'image, sur un sentier, dans les rochers, dans les ronces, et puis dans la bonne terre. Et pour nous, en fait, le Nouveau Testament est assez clair, nous sommes une des premières raisons qui fait que les chrétiens restent sur terre après leur conversion, parce que, à quoi bon, hein, quelque part, c'est parce qu'on a une mission, celle de semer la parole. C'est dit de différentes manières, vous êtes des ambassadeurs, vous avez le ministère de la réconciliation, vous devez faire des témoins, vous serez mes témoins jusqu'au bout de la terre, on doit prêcher à toutes les nations, faire de toutes les nations des disciples. Alors là, j'ai cité beaucoup, beaucoup de passages, je pourrais vous donner les références ensuite. C'est l'œuvre du royaume de Dieu. On parle de ces paraboles comme des paraboles du royaume. Le royaume de Dieu avance en semant la parole. Et comment avance le royaume? Par l'œuvre des sujets du roi, c'est-à-dire les chrétiens, son peuple. Et alors sur cette image de la semence, il y a deux choses qui m'ont frappé, voire même ému. D'une part, c'est... Une petite crise. Bruno, si tu veux bien fermer la porte, je te remercie. Je suis pas le seul à avoir été frappé, apparemment. Plutôt la porte de la garderie. Ouais, la chaleur, c'est difficile. Mais la chaleur, ça aide les plantes à pousser. Et vraiment, dans ce sujet, c'est pas la parabole de comment est-ce qu'on s'aime bien. Le semeur, il est même presque un peu négligent. Il y a un seul truc qui fait que ça marche, c'est la semence. Et clairement, on y comprend qu'on ne parle pas d'équipement, de technique, de méthode pour semer. L'essentiel, c'est qu'on sème cette parole, cette semence. Alors pour nous, c'est simple. Quelque part, le truc essentiel pour le chrétien, pour remplir sa mission de semer la parole, c'est de la connaître, se l'approprier, la vivre, et se concentrer, on va dire, principalement là-dessus. Ça ne veut pas dire que voilà, tout le reste est à négliger, mais d'abord, typiquement quand on prépare une prédication, on a fait une formation à la prédication récemment, le principal fardeau, le principal focus, c'est est-ce que j'ai bien compris de quoi le Seigneur parle dans ce texte. Qu'est-ce que dit la parole? Quand on va faire l'école du dimanche aussi, quel temps on va passer à ça? Quel temps on va aussi passer au reste? Alors bien sûr, on prépare aussi le reste, mais voilà, l'essentiel c'est est-ce qu'on est au point sur la semence? Est-ce qu'on a cette semence pure? Être fidèle à cette semence, c'est le seul critère. Ensuite, cette image... Dieu n'a pas pris l'image d'un, en tout cas dans ce passage, d'un mur qu'on construit. Il a pris l'image d'une semence, quelque chose de vivant. Ça, je trouve ça très fort, surtout ce côté multiplicateur. En un coup, d'un seul coup, une graine a fait 30, 50 ou 100 autres graines. Alors j'ai, pour l'occasion, amené une graine. Vous pouvez me croire sur parole. Parce que je pense que certains au fond ne la voient pas. C'est pas une des plus petites graines, hein. Du reste, ça c'est une graine de coriandre. Isaline m'a dit à quoi bon l'amener, de toute façon ils ne la verront pas, t'as qu'à faire semblant. Voilà, une toute petite graine, ça c'est la troisième parabole de ce passage, hein, qu'on ne va pas trop s'attarder dessus, mais une toute petite graine qui fait une moisson derrière, avec un rendement de 30. J'ai pris le plus petit rendement du passage. Si j'ai une semence qui fait 30 et les 30 qui font 30, au bout de la dixième génération, je peux mettre 4000 graines par mètre carré de terre émergée sur Terre. C'est ce qu'on appelle une croissance géométrique. Ça va très très vite. Si la parole est semée, il y a une puissance là-dedans. Il y a quelque chose de vivant qui nous échappe même par rapport à juste semer. Et là il s'est passé quelque chose. Seulement 10 moissons et on remplit la terre. Et finalement, elle est puissante, cette parole, à condition qu'elle soit reçue. Et c'est ce qui nous amène au troisième point, troisième et dernier point. Vous vous doutez qu'il est un petit peu plus long que les autres. Celui des terrains. C'est tout le sujet de ce texte. Il y a différents terrains. On s'est mis un peu à la place du semeur, mais il ne faudrait pas qu'on se considère seulement à cette place-là. Parce que concrètement, ce matin, il y a surtout des terrains. Je pense qu'on est tous un peu des terrains parce que les terrains, ce sont les personnes qui entendent la parole. Et donc, c'est bien notre cas. Et il y a ici quatre types de terrains. Le chemin, le sol pierreux, le sol avec les ronces et la bonne terre. Alors, je vais commencer par les trois sols que j'ai appelés non réceptifs. Ces trois premiers sols, on va les faire dans l'ordre. Donc, le premier, c'est le chemin. Qu'est-ce que c'est concrètement? Qu'est-ce qui est décrit? Les champs, traditionnellement, sont séparés par des chemins où on circule. Et donc, c'est des endroits où la terre est tassée. Il ne faut pas forcément avoir une voie romaine avec des pavés. Hein, mais c'est un endroit où la terre est tassée. Et concrètement, s'il tombe des graines, elles ne peuvent pas pénétrer dans la terre. Le sol est trop dur. Et là, les oiseaux en profitent, prennent les graines qui ont été semées. Et Jésus nous le dit, ce sol représente ceux qui n'écoutent pas du tout. Vous connaissez l'expression, ça rentre par une oreille. Ils sont endurcis et Satan peut tranquillement faire le ménage. Satan peut éviter que toute parole pénètre dans ce sol qui est devenu comme un marbre très dur. On oublie souvent qu'il y a une dimension spirituelle, que Satan est actif. Et tout son jeu, c'est de pouvoir se cacher. Mais quand on sème la parole, il y a Satan qui est à l'œuvre aussi. Et qui profite donc de l'endurcissement des cœurs. Ce passage fait directement suite à un passage qu'on a déjà vu plusieurs fois. Jean-Marc et moi avions parlé dessus il y a quelques mois. C'est le fameux passage du péché contre le Saint-Esprit. Un moment où les pharisiens, des personnes religieuses, étaient tellement endurcies qu'elles calomniaient Jésus en disant... C'est par le prince des démons qu'il peut chasser des démons. C'est par Satan qu'il fait ces choses-là. ou un endurcissement qui allait très loin, que Jésus appelle un endurcissement contre le Saint-Esprit, un péché contre le Saint-Esprit, et il dit qu'il n'y a plus de pardon possible dans ce cas-là. On est comme, à force d'endurcissement, immunisé contre la parole. À moins peut-être dans, encore d'être laboureux. Est-ce que le Seigneur peut, dans sa grâce, labourer le sol? Et je pense des fois, peut-être que ça explique certaines de nos épreuves. Certainement pas toutes, mais certaines de nos épreuves, qu'on a besoin de recevoir quelque chose. Et pour ça, on est souvent plus attentif quand on souffre. Et voilà, c'est la terre la plus triste. Il n'y a rien qui s'est passé. Et il ne faut pas croire que c'est forcément... Là, on a l'image de... il n'écoute pas, il n'est pas intéressé. C'est forcément un athée, affreux, rebelle, dégénéré, tout ce qu'on veut. Non. Jésus s'adressait à des religieux. C'est ceux qui ont plus de chances d'être qu'on soit passé, et qu'ils soient tassés. Ils n'ont jamais reçu correctement la parole qui a été semée. Le deuxième terrain non réceptif, c'est le terrain plein de pierres. Alors là, il ne faut pas forcément y voir un terrain avec des gros cailloux partout. C'est plutôt une fine couche de terre qui est par-dessus un rocher, comme il y a dans beaucoup d'endroits en Israël. C'était un terrain où Israël était un pays où il y a beaucoup de rochers partout. Et alors là, il y a un petit peu de terre, donc les graines peuvent rentrer un peu en terre et pousser assez vite. Souvent, quand il y a peu de terre, on va plus vite voir la jeune pousse, mais au moindre rayon de soleil, il n'y a pas de racines, la plante dessèche. Et Jésus nous dit que ce sol représente ceux qui entendent la parole, Et la reçoivent avec joie, ils manifestent quelque chose, mais c'est superficiel. Il n'y a pas de racine. Quelque part, il manque un peu une notion d'engagement. Il y a un côté très émotionnel, on est heureux, mais dès qu'adviennent les difficultés, c'est-à-dire ce soleil qui vient sécher la pousse, on voit que finalement il n'y a pas les racines pour puiser des nutriments, l'eau dans le sol. Il n'y a pas un réel attachement de la semence et du sol. Et des fois, on oublie un peu de le dire. On dit, avec mon Dieu, tu sais, tout ira bien. On connaissait ce couplet. Mais, bien que ça soit vrai, quelque part, il y a, Jésus promet aussi des difficultés, des épreuves et même des persécutions. Quand on s'engage avec Jésus, c'est aussi pour ça. Et en fait, c'est difficile de savoir, tant qu'on n'a pas eu d'épreuves, si on est vraiment enraciné. Finalement, la foi éprouvée, c'est celle qui a connu des épreuves. Dans les pays où il y a des persécutions féroces, finalement, ça fait, entre guillemets, le tri plus rapidement. C'est plus facile de savoir. Et à nous de nous poser la question, donc, est-ce qu'on tient d'autant plus fort à la parole qu'on a des épreuves? Ou c'est précisément, ou c'est à ce moment-là qu'on a des doutes, qu'on est prêt à abandonner? C'est dans les épreuves qu'on voit finalement la vigueur de l'attachement qu'on a au sol. Et dans l'autre sens, en fait, finalement, si je tire un peu sur cette image, le soleil, qu'est-ce qu'il fait pour les plantes? La photosynthèse. Le soleil aide les plantes à grandir. Pourvu que les plantes ont des racines, qu'elles sont arrosées, elles poussent très vite s'il y a du soleil. J'ai noté ce verset de Colossiens 2. Verset 6, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi. Il s'agit d'être dans un engagement profond. C'est un attachement réel, et c'est pas juste superficiel, émotionnel, le truc d'un moment. C'est facile, finalement, de susciter des émotions. Mais Jésus nous invite à plus que ça, être disciple, c'est le suivre. Et là-dessus, je trouve que le parcours de baptême aujourd'hui à l'Église, il se fait sur plusieurs mois. Il y a un vrai travail de Mamie Enerissou, notamment pour faire comprendre tout ce que ça implique, que ce que c'est de suivre Jésus, pour pas être dans quelque chose de superficiel. Et peut-être que Jésus nous invite ce matin aussi à sonder, à dire, ok, à quel point je suis vraiment attaché à toi, Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles je serais prêt à abandonner? Le troisième terrain, qui rejoint un peu celui-là, mais d'une autre manière, dans le premier cas, c'était l'adversaire était Satan. Peut-être dans le second cas, c'est plutôt notre chair. Quand je souffre dans ma chair, je vais abandonner. On a un peu toujours ces trois ennemis. Satan, la chair et le monde. Le troisième terrain, ce sont les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes, quand on sème, on ne les voit pas toujours. Hein. Elles n'ont pas forcément poussé. Mais en fait, elles poussent en général plus vite. Ça, c'est un effet de la chute, je crois. Elles sont plus vigoureuses. Elles vont prendre plus de nutriments, finalement, dans le sol. Et elles vont avoir des feuilles qui vont étouffer les bonnes herbes, en fait. La bonne semence, ce qui devait pousser et produire du fruit. Jésus nous dit que ce sol représente ceux qui ont entendu la parole mais qui ne sont pas encore entièrement à cette semence. Ils sont accaparés par les préoccupations du monde, par des richesses, et certainement on peut élargir la popularité, les plaisirs, les divertissements, dans une société où on se divertit beaucoup, moi-même. Le succès peut-être, la famille, les apparences, pas forcément des choses mauvaises, mais qu'est-ce qui est au fond, hein? Jésus nous dit dans Matthieu, on ne peut servir deux maîtres. Et en pratique, c'est de la bonne semence qui est étouffée. Alors du coup, ça nous pose la question, vers quoi s'incline notre cœur quand on pense à rien? Qu'est-ce qui, quelque part, accapare nos pensées, nous préoccupe? Qu'est-ce qui aussi modèle notre façon de penser? Comment qu'est-ce qu'on accepte comme semence finalement dans notre cœur? Est-ce que c'est la parole de Dieu en priorité? Ou alors c'est Hollywood, ou la radio, ou un footballeur, un humoriste. Voilà, non pas qu'on est hors du monde, mais quelle est notre référence? Quelle place aussi ont les préoccupations dans notre vie? Famille, travail, santé, prospérité. Quelle place a la semence? Qu'est-ce qui fait référence? Et qui étouffe qui? Notre Dieu est un Dieu jaloux. Jaloux comme d'une saine jalousie, la jalousie d'un époux. Et voilà, est-ce qu'on a des amants? Dans ce cas-là, je crois que Satan ne va pas exiger des preuves dans nos vies. Sa manœuvre la plus logique, c'est de nous laisser dériver doucement, nous laisser nous faire absorber quelque part par toutes ces préoccupations. Et qu'on ait ce sentiment de dire « Oui, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais bientôt, je m'y remets. » Et malheureusement, on a tous certainement connu, que ce soit dans le cas des épreuves ou dans le cas des préoccupations, et souvent les deux, des personnes qui étaient dans l'Église, qui avaient adhéré à l'Évangile, qui semblaient avoir vraiment une foi authentique, et puis finalement qui se sont laissés absorber. C'est difficile en ce moment, parce qu'ils cherchaient une place, un concours, quelque chose, une relation amoureuse aussi, très souvent. Une épreuve, un péché avec lequel on lutte, des gens qui nous ont rejetés. Et puis doucement, on dérive. Et à un moment terrible, peut-être qu'on en est au point, on est en doute. Quand on nous annonce l'Évangile, on ne dit plus « dis-moi en plus ». « Ah oui, je connais ça, d'ailleurs ça me fait penser à ça ». On dit peut-être simplement « oui, c'est bon, je connais ». On est passé de la domination de la chair ou du monde à celle de Satan. Et finalement, ce passage qui paraît assez léger, qui parle d'un semeur, on raconte facilement à l'école du dimanche, c'est un constat de jugement. Et même au milieu de ce passage, il y a ce verset difficile sur lequel je me suis un petit peu arrêté tout à l'heure, et je voulais pas l'éluder, c'est les versets 11 et 12. Jésus dit à ses disciples, lorsqu'il lui pose une question, « C'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole, afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leur péché ne soit pardonné. » Et là, on voit que la parabole, qui est éclairante, quand on comprend les deux éléments qui sont comparés, lorsque on n'a pas la clé, ça devient une énigme, et même, dans ce cas-là, un jugement. Jésus cite ici un passage d'Ésaïe, où où Dieu envoie son prophète en lui disant « Tu leur diras, mais ils ne t'écouteront pas, parce que j'ai décidé de les juger. » Certainement, c'était le cas donc particulier de cet Israël qui, enfin de cette foule qui le suivait et qui l'avait rejeté, qui le suivait depuis quelque temps. Il a dit « Il leur est donné d'entendre, mais ce sera un jugement pour eux. » Mais pour nous, c'est certainement une piqûre de rappel. On glisse facilement voilà, des ronces au chemin, du sol rocailleux aussi au chemin. On en arrive à cause toujours, mon esprit est ailleurs, vers mon argent, mes affaires, mes projets. Ou cause toujours, j'en peux plus, c'est trop dur. Alors on a cet avertissement, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Dans l'hébreu aussi, l'auteur nous dit, aujourd'hui, citant l'Ancien Testament, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. On a inventé le mythe du chrétien qui ne porte pas de fruits. Je ne vois pas ça dans la Bible. Je ne vois pas dans un chrétien qui puisse être asséché au soleil ou étouffé par les mauvaises herbes, mais sauvé quand même. On voit que la bonne terre porte des fruits. Et voilà, on va en reparler, c'est la semence qui produit tout ça. Et quelque part, est-ce qu'on a bien reçu cette semence? Est-ce qu'elle est arrivée profondément? Comme ça arrive à cette bonne terre, alors j'en viens à cette bonne terre, c'est un peu plus positif. Non seulement elle produit du fruit, on a déjà parlé un peu, mais elle produit beaucoup de fruits, fois 30, fois 50, fois 100. C'est une explosion de vie qu'on peut recevoir. Et bon, il y a des différences. Mais bon, moi 30, je prends. Si c'est pas 100, tant pis. 30, c'est déjà énorme. Et peut-être que ça parle aussi des différentes choses que Dieu peut faire. En tout cas, Dieu ne nous rend pas uniformes, des clones chrétiens qui sont tous pareils. Il produit un fruit différent dans chacun. Et alors, que sont ces fruits? Ça, c'est une bonne question. Et à minima, on peut dire, au moins, c'est l'opposé des trois premiers terrains. La première, c'est d'écouter la parole. D'écouter la parole et pas, ouais, cause toujours. Ensuite, il y a cette question de profondeur dans l'engagement. À quel point je suis prêt à souffrir pour Jésus? À quel point voilà, je vais m'accrocher avec lui? Et ensuite, aussi, cette question de l'exclusivité. Jésus, voilà, on dit des fois, Jésus veut la première place dans votre vie. Et en fait, il veut la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Je vous laisse continuer. Tout, quelque part, nos vies devraient être centré autour de Jésus. Mais je crois que il est aussi naturel dans la lecture de ce passage et dans la suite aussi que ces fruits, c'est en particulier le fait de devenir semeur à son tour. On porte des fruits et finalement c'est des semences qui peuvent être aussi semées. La dernière parabole dont je ne vous ai pas encore parlé dans ce texte, il y a quatre paraboles qui suivent. Celle qui suit juste après, c'est très court. Verset 21, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous un seau ou sous un lit? Et ça nous parle de témoignage, de cette lampe qui doit briller. C'est pas très détaillé ici, dans Matthieu, il y a un peu plus de détails sur que votre lumière soit vue par tous les hommes. Et chacun peut donc témoigner du Seigneur. Alors on se dit, oulala, c'est pas simple ça. Mais en même temps, la puissance, encore une fois, est dans la semence. On ne témoigne pas de soi-même, mais de Jésus-Christ qui est ressuscité, de son royaume, de son évangile, de sa parole. Alors, c'est pas forcément sophistiqué du coup, il s'agit d'être fidèle à la parole, et bien sûr, on peut toujours essayer de s'améliorer, mais d'abord que cette parole s'ancre en nous. Et voilà, j'insiste sur le fait que la puissance est dans la parole, parce qu'on pourrait prendre les choses à l'envers. On se dit, ouais, il faut que je sois très engagé, très résilient, que je sois intransigeant, actif, que je connaisse la Bible par cœur. Et c'est bien, je veux dire. Mais c'est d'abord la semence qui est semée, c'est d'abord un don de Jésus qui sauve par sa parole. 1 Pierre 1, il utilise la même image, 1 Pierre 1, verset 23-25. En effet, vous êtes nés de nouveau. Si on est chrétien, c'est qu'on est né de nouveau. J'ai rien fait pour naître. Hein. Des fois, les adolescents, ils sont un peu durs avec leur... J'ai pas demandé à venir. Non, j'ai rien fait pour... On peut le dire... Oui, merci. J'ai pas demandé à venir. J'ai rien fait pour naître et quelque part, je ne fais rien pour naître de nouveau. Et donc, vous êtes né de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute créature est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Donc cette parole, justement, celle qui vous a été annoncée, est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. C'est l'Évangile qui sauve, par l'œuvre de Jésus. Et sa parole ne reste pas sans effet. C'est dans cette logique-là que ça s'inscrit. D'abord, en recevant, et Dieu agira dans nos cœurs. Dieu donne en toute générosité, il n'a pas besoin de nos faibles efforts. Mais il nous inscrit, il nous dit, voilà, semez, vous, en qui vous avez été, qui avez reçu de la semence. Donc ne résiste pas à la parole et à son esprit. Ils vont agir si nous nous ouvrons vraiment à Jésus, et pas de manière superficielle ou opportuniste ou avec un cœur partagé en essayant de répartir ses œufs, de tenter différents moyens. Alors, aussi, je pense, une mauvaise... interprétation qu'on pourrait faire, c'est on se dit bon, il y a quatre types de terrains. Moi, je visais que les terrains qui vont produire du fruit. Lui, ça m'a l'air d'être un chemin. Lui, ça m'a l'air d'être un terrain rocailleux. Et lui, peut-être des ronces. Mais lui, je sens bien. Et je crois pas. Alors même si on doit gérer avec discernement, mais c'est pas ce que dit cette parabole. Hein. C'est chacun pour cette parabole incite à recevoir. Donc c'est pour soi-même qu'on va le prendre. Et puis c'est Dieu qui connaît les cœurs, de savoir vraiment quelle terre sera propice. Je dis, on a des a priori, on se dit, bah, celui-là est religieux, donc il est déjà pas mal. Et en fait, c'est pas forcément le cas. Et inversement, celui-là, ouh là là, il a l'air bien impie, ça a l'air mal barré. Bah, c'est pas comme ça que ça se passe pour la semence. Donc, voilà, comme nous dit, dans un sens certainement plus large, dans un contexte plus large, dans Ecclésiaste 11, « Sème tes graines dès le matin, et le soir ne laisse pas ta main au repos, car tu ne sais pas ce qui réussira. » Est-ce que ce sera ceci ou cela? Est-ce que l'un et l'autre seront également bons? Ça nous encourage donc à être des semeurs généreux, comme Dieu est généreux. Et d'ailleurs, je voulais terminer par une anecdote qui est véritable. Je l'avais lu dans un feuillet il y a longtemps, j'en avais un souvenir, et j'ai fait des recherches, je l'ai retrouvé dans les mémoires de John Wesley, enfin dans une biographie de John Wesley. Je vois Clément qui lève la tête. Tiens, c'est l'histoire de l'église, c'est moi. John Wesley et son frère Charles Wesley étaient deux prédicateurs anglais qui avaient redécouvert la parole pour leur propre vie et qui s'étaient mis à faire des groupes de quelque part des groupes de croissance, on appellerait ça aujourd'hui, et puis à prêcher d'abord dans les églises et ensuite quand ils ont été exclus des églises en plein air. Ça fait beaucoup ressembler à Actes, hein, ce qui leur est arrivé. Et là, ils étaient à Dublin, au milieu du 18e siècle, il me semble en 1747, mais ce n'était pas très clair. Et ils prêchaient l'évangile de Jésus-Christ et la nécessité de changer de vie. Ce que faisait Jésus, d'ailleurs. Les croyants, d'ailleurs, étaient... On n'a pas trop idée de ça. On voit des chrétiens qui prêchent dans un pays a priori chrétien, mais ils étaient persécutés. Et il y avait même eu des lynchages sans procès de gens qui avaient qui s'étaient convertis. Et donc à Dublin, à l'époque, il y avait un homme qui aimait beaucoup la musique et qui savait qu'aux événements organisés par les Wesley, on allait entendre des chants. Alors, il était venu pour entendre des chants, mais il avait fait le serment. Il ne veut pas entendre la prédication. Donc à chaque fois qu'un chant se termine, je me bouche les oreilles. Et il ne regardait pas. Et il se trouve qu'à la fin du premier chant, il avait la tête baissée, les oreilles bouchées. Et... une mouche s'est posée sur son nez. Il a voulu la chasser. À l'instant, il va donc, j'imagine qu'il a d'abord bougé la tête, mais il a dû la virer avec sa main. Et à ce moment-là, les quelques secondes où il avait les oreilles débouchées, il a entendu que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À partir de ce moment-là, il n'était plus en repos. Et cet homme était un tavernier impie, quelqu'un qui tenait un bar, mais qui était particulier, enfin, qui n'était pas spécialement pieux, loin de là, mais son cœur n'était plus tranquille. Il s'est tourné donc vers ces chrétiens authentiques, il les a écoutés attentivement, présenté l'évangile et s'est converti. Et qu'on puisse, voilà, par la grâce de Dieu, parce qu'on voit que c'est Dieu, dans sa grâce, qui agit avec puissance, y compris par des mouches. On disait à Jésus, tu agis, c'est une ironie, tu agis par le prince des démons, c'est par Belzéboul. Le surnom de Satan, c'était un surnom Baal-Zéboul, et Baal-Zéboul, c'était le calembour qu'on faisait dessus. On disait le seigneur des mouches, un peu pour faire un calembour. Et d'ailleurs, on voit ça des fois dans la culture, qu'il y a des mouches quand il y a des démons. Enfin, il y a une association entre Satan et les mouches. Mais le vrai seigneur des mouches, qui est au-dessus de tout, il peut les utiliser pour nous. C'est un peu tordu ce que je vous dis, mais... L'essentiel que nous dit ce texte, c'est Hébreux 3, versets 7 à 8, et c'est répété trois fois dans Hébreux. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Avant que les oiseaux s'emparent de la semence, écoutez sa voix vivifiante. Si donc vous avez des oreilles pour entendre, entendez le Seigneur qui vous appelle. À s'accrocher à sa parole malgré les épreuves, à s'attacher à sa parole sans réserve, sans amant, en abandonnant nos idoles. Et alors, remplis de la parole agissante de Dieu, soyons des semeurs fidèles et reconnaissants. Amen.